Civisme et droit du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent?
Civisme et droit du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droit du citoyen, une émission de la web radio Awevi présentée par Spero Maolé. Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. Awevi Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de Awevi Info, nous voici à l'heure de notre émission Civisme et droits du citoyen. Civisme et droits du citoyen, c'est une heure pour comprendre, maîtriser et avoir des informations sur le droit, la citoyenneté et le civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est votre rendez-vous quotidien pour vous permettre de mieux appréhender la chose juridique.
Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you, makes the fighter. What's that fever lighter? Doesn't mean I'm over. Cause you're
Nous allons commencer notre émission de ce jour avec une citation. Elle serait un peu trop longue peut-être pour certains, mais il faut forcément qu'on y arrive. Cette citation qui vient d'une pensée de Montesquieu a été faite en 1791 dans son ouvrage qui est intitulé « L'esprit des lois ». Cette citation est restée célèbre parce qu'elle a permis des avancées sur la gestion des États. Cette citation, elle est celle-ci. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs. Celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Fin de citation. Je me permets de reprendre. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Fin de citation. Cette pensée de Montesquieu a donné naissance aux trois pouvoirs classiques utilisés encore aujourd'hui sous les appellations ou dénominations de pouvoir législatif, de pouvoir exécutif et de pouvoir judiciaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens commencent par dire que la presse et la population sont en train de devenir également des pouvoirs. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons que trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et donc, ces trois pouvoirs-là sont partis de la citation de Montesquieu qui a constaté qu'il faut dissocier ces trois pouvoirs-là pour empêcher que la même personne n'ait tous les pouvoirs dans un État pour devenir malheureusement un tyran, un dictateur, un monarque qui a tous les pouvoirs pour gérer de façon ou bonne ou mauvaise la vie de la cité. Et c'est donc la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu qui a permis de trouver différents systèmes de gestion des États. En effet, Montesquieu a prôné la séparation des pouvoirs car il sait que régulièrement, les hommes sont enclins à outrepasser leur pouvoir. Conférer un pouvoir, ne serait-ce qu'un tout petit pouvoir de plus, à un portier, à un veilleur de nuit, ne serait-ce même qu'à votre domestique, et vous verrez comment il pourrait en user. Conférer un pouvoir de plus à quelqu'un dans votre service, et vous verrez comment il va en abuser. C'est malheureusement un défaut humain. C'est malheureusement un comportement humain qui fait que dès qu'on a un pouvoir, on veut démontrer qu'on a ce pouvoir et on en use à outrance jusqu'à en abuser. Et très souvent, dans les trois pouvoirs classiques que nous venons d'énumérer,
le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, c'est essentiellement les deux premiers qui gèrent le pays. C'est ou bien le pouvoir exécutif ou bien le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire se contentant de régler les différends entre les particuliers d'un pays ou les différends entre les particuliers et l'État. Le pouvoir judiciaire doit rester dans son rôle de juge des litiges, des contentieux, et ne pas s'immiscer dans la sphère politique. Et voilà, le mot est lancé. En matière politique, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif vont essayer chacun, selon le pays, de s'accaparer la gestion du pays. Et il faut que le pouvoir judiciaire demeure l'arbitre. Il faut que le pouvoir judiciaire, à la lumière des tests que le peuple s'est donné à travers ses représentants, que le pouvoir judiciaire essaie de voir si tout est conforme à ces tests-là, à ces normes-là. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le pouvoir judiciaire a un rôle fondamental dans la liberté de la population, a un rôle fondamental dans la gestion du pays sans s'embarrasser de ce qui est politique. Et c'est pour cela que dans certains pays, on demeure convaincu que le pouvoir judiciaire doit demeurer indépendant. On crée même des organes comme ce que nos amis anglophones appellent les « chief of justice », le chef de la justice, qui a un pouvoir étendu en matière de règlement des différends, mais sans rester sous la tutelle d'un ministre de la justice, sans rester sous la tutelle d'un exécutif, ou sans rester sous la tutelle d'un législatif. Le pouvoir judiciaire est très important parce qu'il est la garantie des libertés fondamentales. Seulement aujourd'hui, notre préoccupation n'est pas le pouvoir judiciaire. Notre préoccupation, c'est le pouvoir exécutif, qui, avec le pouvoir politique, essaie de contrôler la gestion du pays. Dans certains pays, comme on le verra tout à l'heure, c'est le pouvoir législatif qui prend le pas sur le pouvoir exécutif. Dans d'autres, c'est le pouvoir exécutif qui prend le pas sur le pouvoir législatif. Il convient de dire que ce qui est plus fréquent, c'est le pouvoir exécutif qui domine le pouvoir législatif. Mais dans tous les cas, les deux ou les trois pouvoirs ne doivent pas être complètement séparés. Il doit avoir une interaction entre les trois pouvoirs pour faciliter la collaboration utile à l'harmonie du pays. Le pouvoir exécutif aura des choses à demander au pouvoir législatif, aura à contrôler le pouvoir législatif, et dans le même sens, le pouvoir législatif pourra contrôler le pouvoir exécutif, pourra demander des choses au pouvoir exécutif pour que le pays fonctionne. Il ne s'agit pas de pouvoir séparer complètement au point qu'il y ait blocage des institutions, mais il s'agit d'une séparation qu'on va appeler une séparation souple. Et dans cette séparation souple, nous allons voir quand même le rôle du pouvoir exécutif qui est dans ce pouvoir exécutif, quelles sont les attributions de ce pouvoir exécutif pour mieux comprendre comment nous sommes dirigés dans un pays. Parle de pouvoir exécutif que dans la situation d'une séparation de pouvoir. En effet, dans les monarchies d'avant, les constitutions, le roi avait tous les pouvoirs. Le monarque était omnipotent, omnipuissant. Et dans cette situation, on ne parlait pas de pouvoir exécutif. Que ce soit faire des lois, que ce soit exécuter des lois, ou que ce soit juger selon la loi, seul le monarque incarnait tous ces pouvoirs-là. Mais quand nous parlons de pouvoir exécutif, c'est que nous nous trouvons dans la situation où il y a séparation de pouvoir, où on distingue le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est composé du chef de l'État et du chef de gouvernement. C'est vrai que les deux peuvent être réunis dans une seule et même personne. On dira dans cette situation que l'exécutif est monocéphale, mais si on distingue le chef de l'État du chef de gouvernement, on dira alors que l'exécutif est bicéphale. Bicéphale, c'est-à-dire à deux têtes, et monocéphale, c'est-à-dire à une seule tête. Dans un régime parlementaire, le pouvoir exécutif est bicéphale. Il est composé du chef de l'État, qui peut être un roi, comme on le trouve au Royaume-Uni ou en Suède, ou il peut être un président de la République, comme on le trouve dans certains d'autres pays. Et à côté de ce roi ou de ce président de la République, se trouve un chef du gouvernement qui est le premier ministre, comme on en trouve en Angleterre, ou le chancelier, comme on le trouve en Allemagne. Par contre, dans un régime présidentiel, on a généralement un exécutif monocéphale. Il se résume au chef de l'État qui peut être suppléé, assisté par un vice-président, le reste de l'administration lui étant complètement subordonné, comme on le trouve par exemple aux États-Unis ou au Ghana. Dans le régime semi-présidentiel qu'on a par exemple en France, l'exécutif est bicéphale entre le président de la République et le premier ministre. La particularité de ce système en France est que la conjoncture politique conditionne l'autorité de l'exécutif. Lorsque le président de la République est de la même sensibilité que le parti majoritaire à l'Assemblée, c'est le président de la République qui exerce la réalité du pouvoir exécutif. Alors que celui-ci revient au premier ministre en cas de cohabitation. Le pouvoir exécutif revient donc la majeure partie du temps au président de la République parce que il y a très peu de périodes de cohabitation. Les périodes de cohabitation où le premier ministre est d'une sensibilité majoritaire à l'Assemblée, mais qui n'est pas le parti du chef de l'État, donne régulièrement lieu à des conflits institutionnels, puisque chacun va essayer de mener sa politique ou la politique de son parti, ce qui ne serait pas du goût de l'autre. Et donc, généralement, lorsque on est obligé d'être dans une situation de cohabitation, très rapidement, on s'arrange pour provoquer une nouvelle élection pour voir dans quelle mesure le pouvoir va basculer entre les mains du parti du chef de l'État pour que la cohabitation cesse. Pour la petite histoire, on se rappelle qu'on a failli avoir cette situation au Togo en 1994 lorsque la coalition UTD-CAR avait la majorité à l'Assemblée et avait dégagé son premier ministre alors que le chef de l'État était de la sensibilité RPT qui n'était pas majoritaire. Une situation de cohabitation qui n'a pas duré longtemps, dans la mesure où très rapidement, le CAR s'est désolidarisé de la coalition au pouvoir, rendant le régime à l'époque, le régime exécutif, un peu bizarre dans les réalités juridiques. Dans les régimes dictatoriaux ou monarchiques non constitutionnel, les pleins pouvoirs sont entièrement aux mains du monarque ou du dictateur, mais comme nous l'avons précisé tout à l'heure, il ne s'agirait pas de parler d'exécutif puisqu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il est important de faire remarquer que dans le système présidentiel, l'Assemblée nationale trouve sa place comme une institution de contrôle du pouvoir exécutif, même si dans la réalité, la gestion du pays est presque entièrement entre les mains du président. Mais dans le régime parlementaire, c'est le premier ministre en principe qui a la réalité du pouvoir avec l'Assemblée qui le suit et qui le contrôle, mais le président de la République ou le monarque n'a pas de réel pouvoir pour être un contrepoids selon ce qu'aurait voulu Montesquieu qui demandait à ce que les pouvoirs soient complètement séparés pour éviter qu'il n'y ait abus de la part de l'un des pouvoirs.
We don't have to go to 360 degrees. Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountains, for all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as I sing my song. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as you hear my words. Oh, ba-da-da-ba-ba-da-de, ba-da-da-ba-ba-da-de. I'll be waiting, I'll be. Still live in yesterday, many today to waste away, but nevertheless it's never late. Oh, see the times have changed. I thought you knew that this world will never ever wait for you. The water's gone past times of fighting, so drop your guns and your swords and let us live all as one. We all need love and understanding. So drop your guns and your swords and let us live all as one.
Classique, le pouvoir exécutif a un rôle souvent très étendu et varié qui peut se résumer à exécuter les lois et les décisions de justice. Dans le concret, le pouvoir exécutif a les rôles suivants. Diriger la force publique, représenter l'État auprès des juridictions à travers le parquet, diriger la force militaire, diriger l'administration et les services publics, diriger la diplomatie, négocier les traités, nommer les fonctionnaires, édicter les règlements, et j'en passe encore. En pratique, dans beaucoup de pays, c'est le pouvoir exécutif qui détermine l'ensemble de la politique, car il a une influence importante sur le pouvoir législatif. Dans un régime européen dit parlementaire, cette influence est considérable, car il est à l'initiative de la plupart des lois, fixe l'ordre du jour du Parlement et contrôle le vote des parlementaires à travers les partis politiques. Dans le régime américain, dit présidentiel, les membres du Congrès sont autonomes, mais le président dispose du droit de veto. Revenons dans notre pays, le Togo, qui a changé de constitution en 2024 pour remplacer la constitution de 1992. Dans les deux situations, le pouvoir exécutif était et est bicéphale. Nous avions un président de la République et un premier ministre avec la constitution de 1992. Avec celle de 2024, nous avons un président de la République et un président du Conseil. S'il faut faire une comparaison entre les deux têtes de l'exécutif avec la constitution de 2024, on pourrait dire que le président de la République est élu par le Parlement réuni en Congrès. Les candidats à la fonction de président de la République sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l'Assemblée nationale. L'élection du président de la République a lieu au scrutin secret à la majorité absolue, tandis que le président du Conseil est le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaires transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du président du Conseil ainsi désigné. Le président de l'Assemblée nationale prend acte de cette désignation, en informe sans délai les députés réunis en séance plénière et saisit la Cour constitutionnelle pour la prestation de serment du président du Conseil désigné. Deux éléments à tirer de cette première différence entre les deux têtes de l'exécutif togolais. D'abord, le chef de l'État, président de la République, est élu, alors que le président du Conseil est désigné. Ce qui fait que dans sa prestation de serment, le président de la République prononce la phrase suivante : devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, président de la République, élus conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l'unité nationale. Tandis que le président du Conseil énonce son serment dans les termes suivants. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, président du Conseil, désignés conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple. Le président de la République a pour tâche donc de consolider l'unité nationale, alors que le président du Conseil doit être le serviteur du peuple, le détenteur des pouvoirs de gestion du pays. Il est donc clair que la Constitution de 2024 n'a pas prévu les mêmes modes de désignation des deux têtes de l'exécutif. Élection pour l'un, même si c'est un scrutin indirect, parce que ce n'est pas le peuple qui directement fait le vote pour désigner le président de la République, mais plutôt par les assemblées, par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés élus par ce peuple pour désigner le président de la République, alors que le président du Conseil est l'émanation directe du parti qui a la majorité à l'Assemblée. Il ne s'agit plus d'un vote, le vote ayant été déjà fait lorsqu'on a donné confiance au parti qui a obtenu plus de voix que les autres, ou alors à la coalition de partis qui aurait amassé plus de voix que les autres, de manière à en dégager son leader comme étant le président du Conseil. Et la règle va demeurer pour la succession du président du Conseil. Ce serait toujours par rapport à la majorité de l'Assemblée. Et la majorité donne de facto celui qui est le président du Conseil, de manière à ce qu'il n'y ait pas blocage au niveau de la succession du président du Conseil. Relevons ensuite que le constituant togolais a tiré leçon de la crise togolaise de 1994 pour préciser qu'en cas de coalition, c'est le chef du premier parti de la coalition qui devient le président du Conseil. C'est vrai qu'en 1994, le problème s'était posé. Il y avait le CAR qui avait plus de voix que l'UTD dans la majorité, dans la coalition de la majorité. Et ce test n'existant pas sous cette forme à l'époque, lorsqu'il s'était agi de désigner le premier ministre qui devait être le chef de la majorité, le chef de l'État à l'époque a choisi, conformément à la forme de la Constitution de 1992, le chef de l'UTD pour prendre la primature. Si le test avait été écrit en la forme d'aujourd'hui à l'époque, il aurait été obligé de désigner le chef du CAR pour être le premier ministre, puisque c'est lui qui était le premier parti dans la coalition avec l'UTD. Peut-être que les constituants n'ont pas fait référence, ne se sont pas appuyés sur ce cas d'école pour faire le test en ce sens, mais ça nous rappelle le souvenir de ce qui s'était passé et on croit qu'avec cette nouvelle formule, il n'y aurait pas de problème pour dégager celui qui, parce que son parti est en avance au niveau de l'Assemblée ou directement ou dans une coalition, doit prendre la tête du pays en devenant le président du Conseil. Voilà une première leçon que nous tirons de la différence entre le président de la République et le président du Conseil, qui sont les deux têtes de l'exécutif togolais. Nous notons également des différences au niveau des conditions pour accéder aux deux postes de l'exécutif. Si les deux ont l'obligation d'être exclusivement togolais, ce qui semble écarter les personnes ayant une double nationalité. Si les deux doivent résider sur le territoire depuis au moins 12 mois, évitant ainsi de prendre des gens n'ayant pas les réalités actualisées du pays. Si c'est vrai que les deux doivent être sains de corps et d'esprit et jouir de leurs droits civils et politiques, permettant ainsi d'avoir des personnes matures et responsables à la tête de l'État, il y a quand même une différence, surtout au niveau de l'âge requis pour accéder à ces postes-là. Si pour le président, il faut avoir un âge obligatoirement supérieur ou égal à 50 ans pour le président de la République, pour le président du Conseil, il est de 40 ans. Enfin, si le mandat du président de la République se limite à un mandat de 4 ans renouvelable une fois, on ne saurait donner une limitation de mandat au président du Conseil, car dans la réalité, en dehors d'une limitation de mandat au poste du président de son parti ou à la perte de la majorité de son parti, il doit demeurer le président du Conseil. Tant que sa majorité demeure confortée et qu'il demeure à la tête de cette majorité, il est censé demeurer le président du Conseil. Mais lorsque, au sein du parti, il y aurait un changement de leader, alors l'Assemblée devrait constater que le président du Conseil doit changer puisque le nouveau leader doit être désigné en principe par le parti pour remplacer le président du Conseil. Voilà de façon schématique quelques différences que nous pouvons établir entre le président de la République et le président du Conseil qui forment tous les deux ce que nous appelons les têtes de l'exécutif togolais, un exécutif bicéphale qui doit, en principe, conduire la politique du pays, la gestion du pays, avec des attributions bien précises et spécifiques que nous verrons tout à l'heure.
Sometimes I just can't take it. Take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just so to go out and kill me. Till you tell me I'm the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, come on, come on. Don't let go. Singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling. Circuiting through, I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time.
comme dans les régimes parlementaires. Le président de la République n'a pas de véritable pouvoir de gestion du pays. Au Togo, il en est de même. Le président de la République est presque sans pouvoir. L'essentiel du pouvoir exécutif reste concentré entre les mains du chef du gouvernement, qui est le président du Conseil. Le président de la République est le symbole de l'unité nationale. À ce propos, il lui appartient de jouer le rôle d'arbitre lorsque les partis politiques ne s'entendent pas. Il lui appartient de jouer le rôle d'arbitre lorsqu'il y a des conflits institutionnels. Il lui appartient d'être en principe le bon père de famille, comme on le fait dans les pays à monarchie constitutionnelle. Il est le symbole de l'unité nationale. C'est pour cette raison qu'il doit en principe se départir complètement de toute appartenance politique. Il ne doit pas montrer un esprit partisan. Il doit être au-dessus de la mêlée et jouer le rôle de conciliateur ou de médiateur ou d'arbitre. Dans tous les cas, il ne doit pas chercher à faire prévaloir les intérêts d'un parti au-dessus de l'autre. C'est lui qui va accréditer les ambassadeurs qui sont nommés en Conseil des ministres. C'est lui qui doit recevoir les ambassadeurs envoyés dans le pays. En tant que garant de l'unité nationale, il est également le représentant de la République. C'est lui qui va envoyer les délégués du pays hors du pays. C'est lui qui doit recevoir les délégués des autres pays dans notre nation. Même s'il est vrai qu'il y a des nuances quant à celui qui doit désigner l'ambassadeur, c'est quand même lui qui, de façon protocolaire, va accréditer. C'est lui qui va demander à ses homologues des autres pays de recevoir ces ambassadeurs-là comme étant les représentants du Togo dans leur pays. Et la réciprocité voudrait que ce soit lui aussi qui reçoive les ambassadeurs qui vont venir dans notre pays après avoir été dûment autorisé par le gouvernement, le Conseil du gouvernement. Le président de la République doit recevoir au moins deux fois par an le président du Conseil pour être informé de l'état de la nation et sur un ordre du jour établi par le président du Conseil. Apparemment, ce rôle-là devrait être sa façon à lui, le président de la République, de donner ses orientations au président du Conseil en termes surtout d'unité nationale. C'est l'occasion pour lui de recevoir également des informations du président du Conseil sur ce qui va et ce qui ne va pas. Il n'aura pas pour rôle de donner des injonctions. Il n'aura pas pour rôle de donner des directives. Il va avoir à la limite pour rôle de donner des conseils, de donner des orientations liées à l'unité nationale. C'est d'ailleurs pour cette raison que de ces deux assises qui sont demandées, les chefs traditionnels doivent participer à l'une des assises. Parce que eux aussi, en leur qualité de gardiens de l'unité nationale, ils doivent pouvoir avoir des choses à envoyer à l'exécutif à travers cette rencontre avec celui qui incarne au quotidien la gestion réelle du pays. Il s'agirait alors pour chacun des deux membres de l'exécutif de pouvoir démontrer au peuple qu'il y a une certaine collaboration entre les deux têtes de l'exécutif. Il faut quand même préciser qu'en dehors de cette rencontre, la collaboration est évidente puisque tous les actes du président de la République doivent être contresignés par le président du Conseil qui préside le Conseil des ministres. Si le président du Conseil doit contresigner les actes du président de la République, il est clair donc que les deux doivent s'entendre, il est clair que les deux doivent collaborer, il est clair que les deux travaillent main dans la main. D'ailleurs, on ne demande pas, selon cette constitution, au chef de l'État de se braquer contre le président du Conseil, mais on lui demande de donner peut-être des avis sur tout ce qui concerne l'unité nationale. La réelle administration ou gestion du pays est entre les mains du président du Conseil, qui préside le Conseil des ministres. Il est le chef suprême des armées. Il dispose de l'administration, exerce l'autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. Il détermine et conduit la politique de la nation, définit la politique étrangère, représente l'État dans la conduite des relations internationales, assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, nomme aux emplois civils et militaires, accorde la grâce dans les cas individuels et communs, et commue les peines dans les conditions prévues par une loi organique. L'article 51 de cette Constitution lui donne le pouvoir de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale après consultation de son président. Les actes du président du Conseil sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. Il est clair donc, au regard des attributions qui sont données au président du Conseil, que c'est lui qui gouverne. C'est d'ailleurs à ce titre que la dénomination du titre, la dénomination de l'article qui en parle, est sous la couverture de gouvernement. Et c'est donc lui qui gouverne réellement le pays, que ce soit sur le plan national que sur le plan international. Même quand nous disons, même quand le texte dit que le président de la République accrédite, c'est sous le Conseil des ministres, c'est sous l'attribution du président du Conseil qui est chargé de conduire les relations internationales. Lorsqu'il doit, le président de la République, recevoir les ambassadeurs qui sont accrédités par leur pays, c'est par l'accord du président du Conseil. Il est clair donc que dans le régime parlementaire qui a été arrêté par la Constitution de 2024, le personnage principal, l'attribution essentielle, la puissance de l'État est exercée par le président du Conseil à travers son gouvernement, puisque ses actes doivent être contresignés par les ministres qui sont chargés de leur exécution. Il nous semble important de revenir un peu sur ces attributions qui ont été faites par la Constitution 2024 pour mieux comprendre comment fonctionnent désormais les institutions du pays. Et pour nous, à civisme et droit du citoyen, il est important de rappeler, d'informer, de former en insistant sur ce qui nous est utile pour la cohésion sociale. Demeurons donc convaincus qu'il faut toujours rechercher le bien de notre pays pour que le vivre ensemble demeure. Sur cette lancée, nous souhaitons à tous et à toutes de passer une excellente semaine en attendant de nous retrouver un autre jour avec la bénédiction de Dieu.